télé, radio et digital. Good Morning Business. Stéphane Pedrazzi.
Bonjour à tous, il est 6h59, ravi de vous accueillir sur le plateau de Good Morning Business. À la une de l'actualité ce matin, la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, la présidente de la Chambre des représentants américaine, est arrivée hier soir à Taipei, malgré les messages de mise en garde qui avaient été adressés par la Chine. Pékin a immédiatement réagi et annonce des opérations militaires dans les prochains jours. Y a-t-il un risque d'escalade dans un climat géopolitique extrêmement tendu? On en parlera tout à l'heure à 8h15 avec Jean-François Di Meglio, président d'Asia Center. Un premier chargement de céréales en provenance d'Ukraine est arrivé cette nuit au large de la Turquie. Signal de détente sur le marché des matières premières, même si cette cargaison en termes de volume est évidemment une goutte d'eau par rapport aux énormes stocks toujours logés en Ukraine. Michel Portier, le directeur général d'Agritel, sera avec nous pour en parler tout à l'heure à 8h15. Et puis la Russie plombe les résultats de Société Générale. Les chiffres ont été publiés ce matin. Une perte de 1,5 milliard d'euros pour la banque au deuxième trimestre. Une consolation toutefois, la perte est moins importante que prévu. On en parlera en détail tout à l'heure dans le journal de 7h30. Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Et on fait un premier point sur l'actualité avec Claire Sergent. Bonjour Claire.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
On commence par cette visite qui a provoqué la colère de Pékin. Nancy Pelosi est arrivée hier soir à Taïwan.
Nous venons en amis à Taïwan, nous venons en paix dans la région, a déclaré la chef de file démocrate à la Chambre des représentants à l'issue d'une rencontre avec la vice-présidente du Parlement taïwanais, Nancy Pelosi, qui est arrivée sans encombre sur l'île alors que la Chine s'est montrée menaçante. Les États-Unis devront payer le prix de leur atteinte à la souveraineté et à la sécurité de la Chine, a déclaré Pékin. Sofiane Anclouf, on a l'ambiance.
Oui, je peux vous dire que c'est même peut-être le début d'une escalade, Claire, de tensions entre Pékin et Washington à 2 mois d'un nouveau congrès du Parti communiste chinois qui doit offrir un nouveau mandat à Xi Jinping. Alors forcément, cette visite pousse les dirigeants à réagir. Des exercices militaires chinois ont été annoncés dans le détroit de Taïwan à partir de demain, ce qui inquiète le Japon voisin, qui l'a fait savoir à Pékin. Et la Corée du Sud appelle à l'instant au calme entre Washington et Pékin. Avec cette visite, c'est la stratégie économique et diplomatique de la Chine qui est remise en question. Couper Taïwan de ses liens avec l'étranger. Il y a d'ailleurs très peu d'ambassades sur place. Ce déplacement de Nancy Pelosi repose la question éternelle de l'indépendance de l'île.
Et en représailles, Pékin a augmenté la pression sur les entreprises taïwanaises. Sofiane, certaines sont déjà placées sur liste noire.
Oui, une suspension qui touche déjà plus de 3000 produits alimentaires taïwanais. Une mesure qui concerne 35 des 107 sociétés taïwanaise inscrite auprès des autorités chinoises. Elle vise en particulier, on disait, les produits alimentaires et n'est pas limitée dans le temps, c'est ce qui est important. Pékin aurait aussi dans ses cartons de nouvelles interdictions, dans le viseur en particulier le secteur industriel. Tout dépendra évidemment de l'évolution des tensions.
Merci beaucoup Sofiane Anclouf. Évidemment pour nous, Taïwan, c'est surtout un producteur de semi-conducteurs. On en parlera tout à l'heure à 7h45 avec Jean-François Di Meglio.
La récession n'est pas inéluctable. Les États-Unis et l'Union européenne peuvent y échapper, assure un responsable de la Fed. Un atterrissage en douceur est possible. Ce sera la mission des banques centrales, assure le président de la Fed de Saint-Louis. Elles devront correctement changer de politique monétaire en passant d'une politique accommodante pendant la pandémie à une politique plus ferme face à l'inflation. Objectif, agir sur les anticipations d'inflation pour faire baisser la courbe des prix.
Un navire chargé de céréales en provenance d'Ukraine, le Razoni, est arrivé cette nuit à Istanbul.
Il a quitté hier le port d'Odessa avec à son bord 26 000 tonnes de maïs. C'est le premier à traverser la mer Noire depuis l'invasion russe. La Turquie souhaite qu'un bateau par jour arrive conformément à l'accord signé avec Kiev et Moscou. Mais la route semble encore longue avant d'atteindre une reprise normale du trafic. Charlotte Guerre.
Le ministre ukrainien des infrastructures a prévenu qu'il faudrait des mois avant que les exportations de céréales d'Odessa et des ports voisins n'atteignent les niveaux d'avant-guerre. Actuellement, 20 à 25 millions de tonnes de céréales sont piégées dans le pays. Il faudrait au moins 371 chargements de navires de taille moyenne pour les acheminer. C'est plus du double du trafic du pays au mois d'août de l'année dernière. Ce à quoi s'ajoute aussi une frilosité de la part des armateurs qui craignent que la Russie bombarde l'un de leurs navires. Face à cela, l'inquiétude de ne pas pouvoir pouvoir soulager une crise alimentaire mondiale. Les Nations Unies parlent d'ailleurs d'un ouragan de famine. Et pour cause, l'Ukraine est un des plus grands exportateurs de blé au Liban, en Somalie, en Libye, en Érythrée ou à Djibouti. Seul point positif, les cours du blé ont repris leur niveau d'avant-crise. Reste à savoir si cela peut durer, si la Russie va oui ou non respecter son accord.
Et cette reprise des livraisons est une excellente nouvelle pour les 33 000 boulangeries en France.
Oui, parce que vous l'avez forcément remarqué en achetant votre baguette, son prix a grimpé depuis le début du conflit en Ukraine. Car même si la France produit son blé, les cours ont flambé et l'inflation est généralisée. Laura Cambeau.
La baguette tradition est plus chère. Elle est désormais vendue 89 centimes en moyenne. C'est 5 centimes de plus, soit une augmentation de 6% enregistrée la semaine dernière. Pour Dominique Enract, président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, l'envolée des prix reste maîtrisée.
Si il fallait que cette année on répercute toutes les augmentations sur le prix, il y aurait eu des augmentations de 30%. Parce que, en fait, tous les postes ont augmenté. C'est vraiment toutes les matières premières, plus l'énergie aussi, ça perd. Et même les emballages. Finalement, c'est une augmentation qui a été tout à fait raisonnable.
Le prix de la baguette est un marqueur de l'inflation étudié avec attention par les consommateurs. Alors, pour éviter que le tarif n'augmente trop, les boulangers rognent sur leurs marges. Dominique Enract craint que ça ne soit plus possible très longtemps.
Là où je suis un peu inquiet, c'est sur les prochains bilans, si vous voulez, vraiment, on verra qu'on aura au niveau des, ne serait-ce que des matières premières, on va avoir une très très grosse hausse. Et ça se verra à la fin du bilan, en fait, là où les marges vont vraiment réduire.
La Confédération demande des aides au gouvernement, notamment pour que les boulangers puissent changer leur four. Aujourd'hui, beaucoup, notamment en province, fonctionnent toujours au fioul et au gaz.
Le second volet des mesures en faveur du pouvoir d'achat a été adopté cette nuit au Sénat.
Et les sénateurs qui ont revu certains pans du texte, ils ont notamment voté pour allouer 20 millions d'euros à la mise en place d'une carte vitale biométrique, un amendement porté par les Républicains, objectif lutter contre la fraude, qui atteindrait 6 milliards d'euros selon l'estimation la plus basse.
Les résultats étaient particulièrement attendus. Société Générale vient d'annoncer une perte de 1,5 milliard d'euros.
Société Générale qui fait mieux qu'attendu. Les analystes prévoyaient 2 milliards d'euros de pertes. Les revenus de ces activités dans la banque de détail et sur les marchés ont permis de limiter l'impact de la vente de sa filiale russe Rosbank. Son produit net bancaire progresse de 13% sur un an à plus de 7 millions d'euros au deuxième trimestre. Et on décryptera ces résultats avec Nicolas Darbeau, associé chez Accuracy, dans une demi-heure.
Publication de résultats également pour AXA.
Qui dépasse lui aussi les attentes. L'assureur affiche un bénéfice net en hausse de près de 3% sur un an, à plus de 4 milliards d'euros au premier trimestre. Le groupe résiste malgré le contexte difficile. Il estime l'impact du conflit en Ukraine à 300 millions d'euros.
Auchan se renforce en Espagne, Alcampo.
Ah oui, le distributeur met la main sur 235 supermarchés appartenant au groupe espagnol Dia. Le montant de l'opération n'a pas été divulgué, une acquisition stratégique et l'ambition d'être leader sur ce marché. Hélène Cornet.
Auchan repart à l'offensive après l'échec de son rapprochement avec Carrefour. Le distributeur nordiste a jeté son dévolu sur l'Espagne, son deuxième marché après la France. Près de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Il a conclu un accord avec Dia pour récupérer 235 supermarchés et un entrepôt. Une acquisition qui double pratiquement son parc de magasins en Espagne. Son ambition, y devenir un leader du commerce alimentaire en comptant les supermarchés et la vente en ligne. Un vrai pari tant le numéro 1 en Espagne, Mercadona est loin devant ses concurrents. Une opération qui tranche avec la politique en cours ces dernières années. Jusqu'à présent, l'idée était plutôt de se désendetter et de se séparer d'actifs non stratégiques. Auchan est sorti d'Italie et du Vietnam en 2019, de Chine l'an dernier. Le plan Renaissance a permis un retour à la rentabilité et même si le distributeur continue de perdre des parts de marché en France, il retrouve des marges de manœuvre pour d'éventuelles opportunités.
Le secteur du luxe, on vous l'a raconté souvent, est en excellente forme, y compris dans le secteur automobile.
Ah oui, l'année est bien partie pour Ferrari, avec des marges qui augmentent. Le constructeur italien a publié hier de bons résultats, qui profitent à son premier actionnaire, les Agnelli. La famille italienne enchaîne les bonnes performances grâce à ses parts dans Stellantis et la vente de son assureur partenaire, Mathieu Pechberti.
Les Agnelli récoltent les fruits de leur virage stratégique entamé il y a 3 ans. À commencer par Fiat, le fleuron historique de la famille italienne était distancé dans l'électrique et peu rentable. La famille a accepté de vendre Fiat Chrysler à Peugeot pour créer Stellantis et les résultats sont là. Le groupe enchaîne les hausses de marge et accélère fortement dans l'électrique. Les Agnelli se retrouvent premier actionnaire d'un géant mondial qui pèse près de 50 milliards d'euros en bourse. Une stratégie financière que l'héritier John Elkann avait déjà appliquée à Ferrari en l'introduisant en bourse dès 2016. Il détient encore 25% du constructeur de voitures de sport dont le cours de bourse a doublé. Sa société familiale Exor a aussi signé la semaine passée la vente de son réassureur partenaire au français Covéa. Elle récupère un généreux chèque de 8 milliards d'euros qui seront réinvestis dans les secteurs d'avenir, la santé, les technologies et surtout le luxe. Les Agnelli viennent de rentrer au capital de Louboutin et visent celui d'Armani. Preuve de sa détermination, John Elkann a fait rentrer à son conseil d'administration le gérant d'Hermès, Axel Dumas, pour l'épauler.
Merci Claire, on se retrouve tout à l'heure à 7h30, les marchés financiers. Direction Euronext, à la Défense, on retrouve Aude Kersulek. Bonjour Aude, les marchés évidemment vont rester très attentifs à ce qui se passe à Taïwan.
Oui, après une journée d'hier pas transcendante où effectivement on a vu les avions passer, les avions chinois passer du côté de Taïwan et puis on n'a plus rien fait de la journée. Alors maintenant on suit cette visite américaine ainsi que les déclarations américaines. Mais hier on avait finalement commencé comme on avait finalement clôturé comme on avait commencé sans grande volatilité pendant la journée. Alors en août ce n'est pas très étonnant avec finalement une perte à la fin de moins 0,4% pour le CAC 40. À Wall Street une baisse de même ampleur, mais de grands écarts. On a reparlé notamment de récession quand Caterpillar a dévoilé ses chiffres, hein, parce que ça ralentit du côté des chantiers en Chine, et du coup Caterpillar vend moins de machines. L'action a chuté de moins 8% après ses résultats. Et puis en revanche, pour Uber, ça allait beaucoup mieux. Les investisseurs ont célébré ce free cash flow positif, cette génération de trésorerie positive. Le titre prenait 18%. Et puis ce matin, les marchés asiatiques sont en train de recouvrer leurs pertes de la veille. On monte de 0,5-0,6% au Japon comme en Chine. Mais ça ne devrait pas être le cas. Sur les marchés européens, on devrait reperdre encore quelques dixièmes à l'ouverture à Paris à 9h.
Et puis évidemment, on va garder un œil sur les cours du pétrole.
Et oui, grand rendez-vous de la journée, la réunion de l'OPEP+, le cartel qui devrait se conformer au calendrier de hausse de la production décidé auparavant. Et si hausse il y a, elle devrait être très très modeste. Alors ce matin, les cours du pétrole s'affichent à $100 pour le Brent. On est à $94 pour le WTI, la référence américaine. Et puis en macroéconomie, on connaîtra aussi à la suite des indicateurs avancés les PMI, services et composites. La question sera de savoir si les services se sont repliés. Ça devrait être le cas du côté de l'Allemagne, tandis que la France devrait encore conserver une légère croissance dans ce secteur-là.
Et puis côté entreprise, on est toujours en pleine saison des résultats.
Oui, alors AXA et Société Générale, les deux gros morceaux du matin de la finance viennent de tomber, mais on aura aussi sur le CAC 40 Veolia. Et puis en Allemagne, on suivra Vonovia pour l'immobilier allemand, ainsi que Siemens, la branche santé de Siemens, et puis ce soir Moderna aux États-Unis.
Merci beaucoup Aude, on vous retrouve tout à l'heure juste après le journal de 7h30. Il est 7h12.
Télé, radio et digital. Good morning business.
C'est l'une des marques de vêtements emblématiques du Made in France. Le Minor, implanté en Bretagne, fête cette année son centenaire. On va en parler avec Jérôme Perminja, directeur général de Le Minor. Bonjour.
Bonjour monsieur.
Merci d'être avec nous. Vous êtes aux antipodes de ce qu'on appelle la fast fashion. Ces collections de vêtements renouvelés en permanence, souvent fabriqués en Asie avec un bilan carbone souvent très négatif. Vous êtes sur un marché porteur.
Alors absolument. Tout d'abord, je voulais vous remercier de me donner l'opportunité ce matin de parler de Le Minor et de le mettre à l'honneur. Et je voudrais peut-être que vous reteniez deux choses de notre échange. On va se parler pendant quelques minutes. La première, c'est que Le Minor est une marque qui va bien, Et la seconde chose, c'est que le Minor est une marque effectivement centenaire qui a un modèle de fabrication intégré unique en France. Et c'est la raison pour laquelle on est à l'opposé de la fast fashion aujourd'hui. Un pull Le Minor, c'est un pull que vous pouvez garder 40 ans. Un pull ou une marinière Le Minor. Et donc, on s'engage pour cela. Et effectivement, on est aux antipodes complets de la fast fashion aujourd'hui.
Les jeunes sont de plus en plus sensibles aux questions environnementales. La fast fashion n'a plus très bonne presse. Et pourtant, en pratique, les jeunes sont toujours très nombreux dans les grandes enseignes de distribution de vêtements. Le constat, c'est qu'il y a une réalité économique à laquelle on peut difficilement échapper.
Alors effectivement, pour des pulls comme les nôtres, on est bien d'accord qu'ils sont chers. Mais de quoi parle-t-on ? On parle de pulls qui durent de plus de 40 ans, qui ont donc une qualité et une durabilité. Et effectivement, ces produits coûtent cher parce qu'il faut plus d'une heure aujourd'hui pour fabriquer un pull. Et ça, peu de gens le savent. Et les gens qui fabriquent ce pull, ce sont des gens qui ont un talent. Et en fait, on paye aussi les gens à hauteur de leur talent. Et nous avons fait un choix chez Le Minor, c'est de continuer à fabriquer des pulls sur le territoire breton, du fil au produit fini, sur le même atelier. Et je pense que c'est un modèle quasi unique en France.
Dans le Morbihan, on va en parler dans un instant. L'équation, vous venez de la présenter, hein, c'est plus rentable sur le long terme de payer peut-être un vêtement plus cher, mais de pouvoir le laver une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine de fois, et de pouvoir le porter, ce qui n'est pas le cas pour la fast fashion, évidemment.
On est absolument d'accord.
Ouais. Vous pensez que les choses sont en train de s'accélérer ? On parle beaucoup en ce moment de sobriété énergétique. La prochaine étape, c'est la sobriété tout court. Acheter moins, mais acheter mieux.
Alors effectivement, c'est acheter moins pour acheter mieux. Chez Le Minor, on a mis en place un programme de seconde main, par exemple, grâce auquel vous pouvez, si vous êtes propriétaire d'un pull, le rapporter dans nos magasins. Et en fonction de son état, on vous proposera un bon d'achat qui va d'une valeur de 10 à 30% d'un nouveau produit. La marque a 100 ans cette année, donc beaucoup de gens ont des affaires Le Minor dans leur placard, et notamment en Bretagne.
Alors on va parler justement de cette histoire. L'atelier de confection fête son centenaire. La marque Le Minor, je crois, est de 1936.
Absolument.
L'entreprise revient de loin, hein. Vous l'avez rachetée en 2018 avec un partenaire, avec succès, puisqu'a priori vous allez boucler cette année votre quatrième exercice bénéficiaire.
Alors absolument, ce qui est effectivement assez atypique, c'est que cette marque allait assez mal jusqu'en 2018. De 2018 à 2022, on a multiplié notre chiffre d'affaires faire par 2,5 et on a une croissance organique de plus de 21% par an, 30% pour cette année. Effectivement, alors la raison principale, je pense, de ce succès, c'est qu'on a opté pour une stratégie de développement et de retournement du pas à pas en investissant au fur et à mesure sur l'industrie, sur les ressources humaines, sur les transmissions de savoir-faire. La deuxième chose, je pense, c'est qu'on a réussi à avoir un mix modèle B2B et B2C qui est équilibré et qui nous permet d'être plus rentable. Il faut qu'on accélère sur le B2C dans les prochaines années, c'est-à-dire sur le digital, hein, principalement. La troisième raison, je pense, c'est la consommation actuelle, les modes de consommation actuels qui font que la marque Le Minor est légitime sur son marché depuis 100 ans, donc nos clients le savent. Et enfin, je pense que c'est aussi la raison principale, c'est qu'on s'y investit à plus de 3000% avec mon associé Sylvain. On s'y est même installé, on s'est installé à Lorient pour être au plus près des équipes de production. Et en fait, Le Minor, c'est une sorte d'héritage, c'est quelque chose qu'on se transmet de génération en génération. Et je pense que nous sommes que des maillons d'une chaîne et on est redevable à cette marque. Et elle mérite en tout cas qu'on s'y investisse.
La transmission de savoir-faire, c'est important ?
C'est capital. Quand on a racheté cette entreprise, la moyenne d'âge était de 58 ans. Donc en fait, on avait à peine 2 ans, puisque ce sont des carrières longues, les gens partent à la retraite à 60 ans. Du coup, on s'est mis en quête de nouveaux talents. Et on a eu une chance inouïe, c'est que nos collaborateurs et collaboratrices qui partaient à la retraite ont accepté de rester quelques mois, voire quelques années de plus.
Pour transmettre leur savoir-faire.
Il faut savoir qu'en France, il n'y a plus d'école de tricotage, plus d'école de couture depuis les années 2000. Et que c'est grâce à ces collaborateurs-là qu'on a pu transmettre ce savoir-faire à des nouvelles salariés qui aujourd'hui, il faut savoir que la moyenne de l'entreprise aujourd'hui c'est 34 ans, quand elle était de 58 ans il y a maintenant 4 ans, il y avait 22 salariés il y a 4 ans, on est 68 aujourd'hui.
La hausse de prix des matières premières, la flambée des coûts de l'énergie, comment est-ce que vous allez gérer cette situation ? Est-ce que vous allez relever vos tarifs ?
Alors effectivement, comme tous les patrons, je suis un peu inquiet pour la suite.
Ouais.
On a sur la partie énergétique, on vient de moderniser tout notre site de production de Guidel avec des matériaux recyclables, durables, qui vont nous permettre d'optimiser nos consommations, en tout cas on l'espère, de façon assez sensible. La hausse des matières premières et la hausse des matières premières, notamment de la laine, du coton, sont effectivement très importants et pèsent dans le prix de vente de nos produits. Pour l'année 2022-2023, on a décidé de ne pas augmenter nos prix pour nos consommateurs parce qu'il y a quand même un prix psychologique. Alors même si le Minor est positionné sur du très haut de gamme, pas du luxe parce que... Je ne sais pas vraiment si c'est du luxe ou pas. Je crois qu'il y avait un des présidents d'Hermès qui
disait... On va donner des tarifs. 75 euros pour un t-shirt, 175 pour un pull.
Oui, ça peut monter jusqu'à 300.
Mais dans le luxe, c'est beaucoup plus cher.
Effectivement. Donc je disais que ce n'était pas vraiment du luxe, mais plutôt du premium. Du premium. Mais je crois qu'il y a un président d'Hermès qui disait que le luxe, c'est ce qui se répare. Et je pense que de cette façon-là, on a un petit peu du luxe puisque les produits Luminor peuvent être réparés.
Merci beaucoup, Jérôme Perminja, d'être venu en plateau.
Merci de m'avoir reçu.
Directeur général de Luminor, et bon anniversaire puisque c'est le centenaire de la marque.
Merci beaucoup.
On marque une pause juste après Culture Geek et le monde qui bouge avec Benaouda Abdedaïm. À tout de suite. Et on fait un nouveau point sur l'actualité avec Claire Sergent. Le Sénat a adopté cette nuit le second volet des mesures en faveur du pouvoir d'achat.
Oui, les débats qui se sont terminés au petit matin. Les sénateurs qui ont revu certains pans du texte. Objectif, revaloriser le travail. Parmi les mesures adoptées, l'une poussée par les Républicains majoritaires à la Chambre haute, c'est la défiscalisation des heures supplémentaires, Sofiane Aklouf.
Oui, le Sénat a décidé d'entériner le relèvement du plafond de défiscalisation de ces heures de 5 000 à 7 500 euros. Jusque-là, hors accord de branche, le maximum était fixé à 220 heures supplémentaires par an. Il sera donc possible d'en faire une centaine de plus. L'Assemblée nationale avait voté cette hausse la semaine dernière, mais seulement pour l'année en cours. C'est un amendement du groupe LR qui a permis de pérenniser ce dispositif avec le soutien du gouvernement. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, a expliqué que cette mesure s'inscrivait pleinement dans le souhait de revalorisation du travail de la majorité présidentielle.
Le Sénat a également voté la pérennisation d'un autre dispositif qui concerne les RTT, et cette fois-ci contre l'avis du gouvernement.
Oui, les entreprises vont pouvoir continuer de racheter aux salariés leurs jours de repos, un rachat exonéré d'impôts et de cotisations. La mesure devait prendre fin en 2023. Les sénateurs républicains disent assumer de mettre dans un coin les 35 heures en laissant la possibilité aux salariés de transformer leur RTT en rémunération. Et toujours dans cette optique de revaloriser le travail, la Chambre haute a voté une majoration exceptionnelle de 150 euros de la prime d'activité, mais qui vient remplacer l'augmentation de la prime de rentrée scolaire d'un montant de base de 100 euros qui devait être distribué courant septembre. Une revalorisation pour les enfants qui avait été décidée par le gouvernement et qui suscite évidemment un tollé de l'opposition de gauche.
Merci beaucoup, Sofiane. Dans l'actualité entreprise, des résultats encore ce matin. Société Générale annonce une perte pour le deuxième trimestre.
Oui, une perte de 1,5 milliard d'euros au deuxième trimestre, mais elle est inférieure aux attentes, largement inférieure aux attentes. Les analystes prévoyaient 2 milliards de pertes. Les revenus des activités de sa banque de détail et de ses activités sur les marchés permettent de limiter l'impact de la vente de sa filiale russe Rosbank. Son produit net bancaire progresse de 13% sur un an à plus de 7 millions au deuxième trimestre.
Nicolas Darbo, associé chez Accuracy, est en ligne avec nous pour commenter ses résultats. Bonjour.
Bonjour.
On s'attendait évidemment à des chiffres négatifs. On savait que la facture de Rosbank allait arriver sur le deuxième trimestre. Malgré tout, c'est mieux que prévu. C'est ce que vient de nous expliquer Claire.
Oui, il faut vraiment effectivement retraiter cette perte liée à la cession sur Rosbank pour apprécier la qualité des résultats de Société Générale sur ce trimestre. C'est vraiment de très bons résultats, comme pour BNP il y a quelques jours. Avec effectivement, comme vous l'avez dit, des revenus en forte croissance à 12,8%, donc une croissance quand même très élevée, soit davantage que la plupart des banques européennes. Et plus important, ce sont vraiment tous les métiers de Société Générale qui sont en croissance, que ce soit la banque de détail, la BFI, mais également leurs métiers en forte croissance ALD sur la location de flotte automobile. Voilà, donc vraiment très bonne croissance sur les revenus et des frais qui restent maîtrisés. Donc, au final. Une performance opérationnelle très bonne, avec un coefficient de cotation à 61,8%.
L'environnement est devenu plus favorable pour les banques avec la remontée des taux. Ça fait partie des entreprises qui profitent de la remontée des taux d'intérêt.
Oui, alors c'est un peu plus nuancé que ça. Ils en profitent en partie sur le remplacement des dépôts qu'ils peuvent faire auprès de la banque centrale. En revanche, à l'opposé, si on prend les crédits immobiliers, les taux ont monté, ils ne peuvent pas encore complètement répercuter cette hausse des taux aux clients, et donc sur le crédit immobilier, ils n'ont pas aujourd'hui Ils ne peuvent pas bénéficier encore aujourd'hui complètement de leur montée des taux. Ça peut même annuler une partie de leur montée des taux et du gain lié sur les dépôts.
La dégradation de la conjoncture, c'est une menace pour les banques. On a vu que les banques américaines avaient passé des provisions pour faire face à d'éventuels défauts dans les prochains mois.
Oui, bien sûr, c'est une menace. Aujourd'hui, elle ne se voit même pas du tout. Hein. Dans aucune banque européenne, ça ne s'est pas vu chez BNP non plus, ça ne se voit pas davantage chez Société Générale. Ces banques sont prudentes dans leur provisionnement, ce qu'on appelle le provisionnement ex ante, hein, donc anticipé, sur des encours qui font fin. En revanche, les vraies pertes, donc le risque avéré sur des dossiers qui des entreprises qui ne remboursent pas, par exemple, sur les scolaires restent vraiment très bas et à un niveau historiquement bas même. Non.
Merci beaucoup, Nicolas Darbeau, associé chez Accuracy.
D'autres résultats d'entreprise ce matin. AXA, hein, l'assureur qui dépasse les attentes. Son bénéfice net progresse de près de 3% sur un an à plus de 4 milliards d'euros. Le groupe résiste malgré un contexte incertain. AXA qui estime les pertes liées au conflit en Ukraine à 300 millions d'euros. Et Veolia qui publie ses résultats à l'instant avec une forte croissance de plus de 46% de son chiffre d'affaires qui s'établit à plus de 20 millions d'euros au premier semestre. L'endettement progresse, forcément en lien avec le rachat de Suez, mais Veolia confirme ses objectifs pour 2022. On attend également les résultats de Maersk ce matin. Le groupe de transport maritime a d'ores et déjà annoncé qu'il relevait ses prévisions de bénéfices après avoir dépassé les attentes au deuxième trimestre. Son chiffre d'affaires s'élève à 21,7 milliards de dollars. Maersk prévoit pour cette année un EBITDA d'environ 37 milliards de dollars. Jean-Baptiste Huette.
Maersk est sur un petit nuage. Les résultats 2022 s'annoncent comme l'an dernier exceptionnel. Le Danois table sur un EBITDA qui devrait tutoyer cette année les 37 milliards de dollars. La très forte demande des consommateurs ces derniers mois, conjuguée au goulet d'étranglement dans de nombreux ports à travers le monde, en particulier en Chine et aux États-Unis, ont propulsé le coût des conteneurs vers les sommets. Après un pic de 11 000 dollars en moyenne au mois de septembre dernier, les cours naviguent ces jours-ci autour de 6 000 dollars le conteneur, bien au-dessus des 1 500 en moyenne avant la pandémie. La congestion des chaînes d'approvisionnement mondiales entraînant une hausse des taux de fret s'est poursuivie plus longtemps que prévu initialement, explique-t-on chez Maersk. Toutefois, depuis quelques semaines, la plupart des opérateurs observent une vraie détente sur les cours, une détente des prix très progressive. Pas de quoi inquiéter pour le moment le géant danois pour qui le coût du transport de marchandises ne devrait pas diminuer de sitôt en raison d'un ensemble de pressions inflationnistes.
Et toujours au chapitre des résultats, Uber a été salué par les marchés après avoir dégagé une trésorerie positive pour la première fois de son histoire.
Ah oui, hier soir à Wall Street, le titre a clôturé en forte hausse de 19% à 29,25 dollars. Uber qui a dépassé les attentes des marchés, même s'il affiche toujours de lourdes pertes. Son chiffre d'affaires a plus que doublé au deuxième trimestre et sa rentabilité croît sur toutes ses activités. Valentin Grille.
La hausse des prix de l'énergie n'a pas de prise sur les résultats du champion des VTC. Il a augmenté son nombre de chauffeurs et de livreurs de près de 31% pour atteindre près de 5 millions d'inscrits, alors que les marchés craignaient un ralentissement de l'activité à cause du coût de l'essence. Surtout, Uber a dégagé un flux de trésorerie positif de 382 millions de dollars. C'est une première pour la Californienne qui affirme sa capacité à devenir rentable et à investir. Sur le trimestre, elle continue néanmoins à perdre de l'argent avec un résultat net négatif de 2,6 milliards de dollars. Elle attribue ses mauvaises performances aux résultats décevants de plusieurs entreprises qu'elle soutient, comme le singapourien VTC Grab ou encore le spécialiste de véhicules autonomes Aurora. L'activité transport de personnes a progressé de 120% sur un an et les livraisons de 37%. Des changements dans le mode de calcul des bénéfices au Royaume-Uni sont en cause, mais les chiffres demeurent bien au-delà des prévisions.
Claire, on vous retrouve tout à l'heure à 8h pour le prochain journal. Il est 7h38, on va parler des crypto-monnaies.
BFM Business, BFM Crypto, la chronique.
Avec Aude Kersulek en direct du siège d'Euronext. Où est-ce qu'on en est ce matin sur les cryptos ?
Bien, c'est morne pleine. Sur la plupart des crypto-monnaies, on ne bouge pas beaucoup depuis hier. Alors la bonne nouvelle, c'est quand même qu'on se trouve des niveaux support sur lesquels rester. On est à 1 600 $ sur l'Ether, 22 933 sur le Bitcoin. Donc ça ne décolle pas, mais ça ne chute pas non plus. À noter cette nuit, un piratage sur le réseau Solana dans la nuit, avec un risque sur les portefeuilles de crypto actifs de la blockchain. La crypto-monnaie Solana qui vaut ce matin 38,06 $.
Et vous avez toujours des petites histoires à nous raconter sur les cryptos. La baisse du Bitcoin, notamment ces dernières semaines, a eu un impact un petit peu inattendu sur le marché des montres d'occasion. Pour quelle raison ?
C'est un constat qui a été fait par Chrono24, un site spécialisé dans la revente de montres en ligne, les montres de luxe. Il nous explique que quand le marché des cryptos s'est envolé, une nouvelle classe d'acheteurs de montres a émergé, à la recherche de Rolex, d'Audemars Piguet ou encore de Patek Philippe. Les prix avaient largement augmenté parce que ces modèles sont difficiles à avoir en magasin. Ils sont souvent réservés d'ailleurs aux clients existants. Maintenant que la valeur des cryptos actifs a beaucoup dégonflé, certains de ces néo-acquéreurs font marche arrière, ils ont besoin de liquidités, ils remettent en vente leurs montres sur le site Chrono24. On a beaucoup plus d'exemplaires. Alors ça va de la Rolex Daytona à la Nautilus de Patek qui se vendait en fin d'année dernière jusqu'à 240 000 euros. Son prix est redescendu à 190 000 euros, ça reste cher. Mais grâce à cette consolidation, eh bien Chrono24 prévoit d'ici la fin de l'année un rebond de ses ventes.
Merci beaucoup, Aude Kersulek. J'étais en train de faire la conversion. Ça fait un peu plus de 10 bitcoins, finalement, pour s'acheter cette montre. Merci, on se retrouve à 8h. On verra comment s'oriente la séance de ce mercredi à la Bourse de Paris. Une question à présent. Peut-on mettre fin au contrat d'un salarié pendant sa période d'essai? Quelles sont les règles? Est-ce qu'il y a des recours? Écoutez les conseils de Lorraine Goumeau.
Good morning business, BFM Business avec vous.
C'est un témoignage et une question ce matin d'un de nos auditeurs qui nous écrit « Mon employeur a mis fin à ma période d'essai sans explication sur le parvis de l'entreprise. Je n'ai pas pu dire au revoir à mes équipes, pas pu monter au bureau et j'ai rendu mon badge et je suis parti. » Notre auditeur est un peu secoué par les méthodes et il nous demande est-ce qu'il y a un recours possible et si la situation est légale. Alors il faut lui répondre que oui, hein, il est tout à fait possible de mettre fin à tout moment à une période d'essai de manière unilatérale et sans explication parce que c'est la logique de la période d'essai. Il y a néanmoins une limite à cette situation, ça serait celle de l'abus de droit. Si son employeur avait abusé de ses droits, alors là on pourrait avoir une rupture abusive qui pourrait donner lieu à une compensation sous forme de dommages et intérêts. En fait c'est une action au prud'homme qui pourrait être engagée pour obtenir une compensation effective. Mais la difficulté, elle est assez évidente, vous la comprenez, ça va être de prouver qu'il y a eu abus de droit. Il faudrait pour notre auditeur eh bien, recueillir, par exemple, le témoignage d'autres confrères, d'autres salariés pour alimenter, voilà, pour démontrer le fait qu'il y avait eu abus de droit. Et donc, c'est très, très compliqué.
La Chine annonce des opérations militaires dans les prochains jours en réaction à la visite à Taïwan de Nancy Pelosi, la présidente américaine de la Chambre des représentants. Y a-t-il un risque d'escalade? On en parle juste après la pause avec Jean-François Di Meglio, le président d'Asia Center. A tout de suite. Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants américaine, est arrivée cette nuit à Taïwan malgré les messages de mise en garde qui avaient été adressés par la Chine. Pékin a immédiatement réagi et annonce des mesures militaires, des manœuvres militaires dans les prochains jours. Réaction également de la Russie qui dénonce une provocation de la part des Américains. On va en parler avec Jean-François Di Meglio, président d'Asia Center. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. On va d'abord rappeler le contexte. L'île de Taïwan fait partie des sujets extrêmement sensibles avec le pouvoir chinois sur lequel il n'y a pas vraiment de négociation possible.
Oui, alors ça c'est la posture qu'a choisi le gouvernement chinois. Simplement, il faut rappeler qu'historiquement, l'île de Taïwan, comme vous l'appelez, a fait partie de l'Empire chinois à la fin de la dynastie Qing. Et puis a été cédé aux Japonais par le traité de Shimonoseki en 1895, a été japonaise de 1895 à 1945, a été réintégrée dans le territoire chinois de 1945 à 1949, puisque le territoire chinois était sous la souveraineté à l'époque de ce qu'on appelle le parti nationaliste chinois, le Kuomintang, et qu'à la suite de la défaite dans la guerre civile du Kuomintang, l'île a été le refuge du Kuomintang et a repris d'une certaine façon sa distance historique, puisqu'elle a toujours été historiquement distante du continent, sauf pendant cette période effectivement de rattachement sous la dynastie Qing,
Jean-François, Ming et sous les Qing. Quel est l'intérêt de cette visite américaine?
L'intérêt de cette visite américaine, je dirais que c'est un message qui est envoyé dans de nombreuses directions. Alors on va commencer sans doute par la première direction, celle qui est la plus importante, c'est-à-dire les interlocuteurs taïwanais. Les interlocuteurs taïwanais observent avec beaucoup d'attention la stratégie indo-pacifique des États-Unis, se demandent effectivement, puisqu'à aucun moment Taïwan n'a été mentionné dans cette stratégie indo-pacifique, si à l'égal de l'Inde, à l'égal de l'Australie, à l'égal d'une certaine façon du Japon et à l'égal de la Corée, qui font partie de différentes alliances plus ou moins étendues des États-Unis pour rassurer leurs alliés démocratiques dans la région de leur soutien, si ce soutien qui a toujours été affirmé, qui est régi par le Taiwan Relations Act, au moment où les États-Unis ont indiqué effectivement qu'ils viendraient au secours de Taïwan en cas d'agression, eh bien si ce soutien est toujours là. Donc le message, il est déjà fort, mais néanmoins, il faut rappeler que c'est le message d'une parlementaire et que ce n'est pas le message de l'exécutif. Et c'est pour ça qu'il y a un deuxième message qui est extrêmement intéressant et qui nous parle aussi à nous. Parce que Nancy Pelosi, si vous voulez, le troisième personnage de l'État, de la même façon que chez nous, le président de l'Assemblée ou le président du Sénat serait le troisième personnage de l'État. Mais c'est le législatif et ça n'est pas l'exécutif. Et donc le message, c'est de dire, dans une démocratie, vous avez une séparation des pouvoirs. L'exécutif, le législatif, font des choses qui ne regardent pas réciproquement le législatif et l'exécutif. Et donc Nancy Pelosi, elle n'est pas mandatée officiellement par l'exécutif. Et donc, Pékin crie dans le vide, parce que à Pékin, vous n'avez qu'un seul pouvoir, l'exécutif, le législatif, le juridique, tout ça est entre les mains de la même personne. Et donc, d'une certaine façon, la logique pékinoise ne peut pas comprendre qu'un envoyé américain, sans mandat de l'exécutif, puisse se rendre et que l'on ne puisse pas reprocher au président américain que Madame Pelosi, qui est la présidente de la Chambre des représentants, d'une certaine façon, elle est le speaker, eh bien, fasse ce qu'elle veut, parce qu'elle n'est pas sous la coupe du président américain. Ouais. Il est évident que le président américain a donné son feu vert, il est évident qu'ils se sont parlé, mais il n'y a rien d'officiel là-dedans. Et puis le troisième message, il est quand même envers nous, c'est-à-dire que Taïwan est un lieu où la démocratie est extrêmement vivante, cette démocratie est menacée partout dans le monde, et effectivement, d'une certaine façon, il y a un acte courageux, même des États-Unis, on peut dire, puisqu'il y a un risque évident. On voit qu'il y a des démonstrations de force de Pékin en face de cette visite de Nancy Pelosi. Eh bien, la démocratie doit parler à la hauteur de ses ambitions et ne doit pas effectivement se cacher sous le boisseau.
Est-ce que c'était le bon timing, à votre avis, pour effectuer cette visite? Le risque à court terme, c'est de renforcer les relations entre la Chine et la Russie, puisque Moscou a immédiatement dénoncé la provocation des Américains qui veulent, je cite, « déstabiliser le monde ».
Alors vous savez, pour ce genre de visite, qui est finalement assez symbolique, hein, encore une fois, il ne s'agit pas du président américain qui débarque à Taïwan. Il n'y a pas de mauvais timing. Le mauvais timing, ça peut être Pékin, parce que si vous regardez les communiqués que Pékin fait passer, si vous observez le ton qui a été utilisé par le ministère des Affaires étrangères chinois vis-à-vis de l'ambassadeur américain qui a été convoqué, effectivement, c'est un mauvais timing, mais dans cette logique-là, tous les timings seraient mauvais. Alors, la crise ukrainienne, elle est là. Effectivement, Pékin a soigneusement fait attention et continuera de faire attention à déconnecter la crise ukrainienne et ce qu'on peut appeler cette crise dans les détroits. Donc, le timing, il a été régi d'abord par le malheureux Covid de Madame Pelosi qui devait venir un peu plus tôt et donc qui se trouve obligé de venir pendant cette crise ukrainienne et puis aussi à un moment où les interlocuteurs taïwanais en ont besoin. La dernière visite, c'était 97. Ouais. 97, c'était une année après l'élection présidentielle à Taïwan, la première élection présidentielle au suffrage universel. Le timing est très significatif, effectivement.
Jean-François, une dernière question, il nous reste peu de temps, mais est-ce qu'il y a un risque d'escalade militaire? Des avions de chasse chinois sont entrés dans les eaux taïwanaises hier soir, et Pékin annonce des tests de missiles dans la zone au cours des 4 prochains jours.
Alors encore une fois, il y a un parallèle avec la crise de 96. On a eu la même chose en 96. Les avions étaient à moins forte portée à l'époque, donc on n'a pas eu d'avions, on a eu des missiles. J'étais à Taïwan à ce moment-là et effectivement, on était menacé par des tirs de missiles. C'est une forme d'escalade. Ce sont des symboles. Il est certain que ce niveau de tension va se maintenir. Il augmentera peut-être. C'est une forme d'escalade. Pour l'instant, on n'en est absolument pas à la crise ouverte et à la crise stratégique.
Merci beaucoup Jean-François Dimilio, président d'Asia Center. Il est 7h53, l'édito.
Good morning business, l'édito.
Emmanuel Lechypre, vous êtes un peu un débat à vous tout seul. Allez, vous allez débattre tout seul du prix de l'essence, ouais. Comme le prix du diesel d'ailleurs, qui ont fortement baissé depuis la mi-juin. On le voit à la pompe, hein, baisse entre 25 et 30 centimes.
Oui, absolument. Sur les 6 dernières semaines, les prix des carburants n'ont fait que baisser. Entre le 17 juin, où le gazole s'affichait proche de ses plus hauts niveaux historiques à 2,13 €, le 17 juin et la fin de semaine dernière, le prix au litre a baissé de presque 26 centimes et la baisse est encore plus impressionnante pour le sans-plomb 95, presque 28 centimes de baisse en 6 semaines sur un plein d'essence. Ça fait quand même une facture de plus de 12 € de moins pour les automobilistes.
Quelle est la raison de cette baisse?
Alors, évidemment, il y a la baisse des prix du pétrole, hein, qui explique en grande partie ce recul. Mi-juin, il faut rappeler que le baril oscillait entre 120 et 125 dollars. Il est tombé autour de 100 dollars mi-juillet, sachant que ce qu'on voit dans cette crise, entre guillemets, c'est que il y a une grosse pression sur les distributeurs pour répercuter plus vite qu'avant les baisses de prix. Donc, on voit plus vite les baisses de prix à la pompe. Et je vous rappelle cette règle, hein, qu'il faut toujours avoir en tête, presque mnémotechnique, c'est que quand vous voyez le baril baisser de 1 dollar sur les marchés mondiaux, dites-vous que quelques semaines, ça fait 1 centime de moins à la pompe à peu près sur le litre. Alors, plusieurs explications, évidemment, les crânes de récession, le pic dépassé de la driving season aux États-Unis, une utilisation accrue des stocks et puis une augmentation quand même un peu de la production de l'OPEP.
La question qu'on se pose tous, est-ce que ça va durer cette baisse du prix des carburants?
Alors côté pétrole, le potentiel de baisse paraît relativement limité maintenant. D'ailleurs, les cours sont plutôt stables, voire remontent un peu depuis quelques jours. On voit que les prévisions de demande mondiale sont toujours orientées à la hausse, celle de l'Agence internationale de l'énergie, celle de l'OPEP. La Chine devrait se remettre notamment à consommer davantage. Et puis quand on regarde côté production, alors il y a une réunion importante de l'OPEP aujourd'hui pour savoir quelle sera la stratégie pour les mois à venir. Mais la réalité, c'est qu'en fait, il y a déjà beaucoup de pays qui sont à saturation de leur capacité de production et qui ne pourront pas beaucoup produire davantage. Donc, les variables d'ajustement, ce sera notamment l'Arabie Saoudite.
Qu'on a reçu à Paris il n'y a pas longtemps.
Et effectivement, parce que c'est vraiment le pays qui va driver le marché. Mais donc, potentiel de baisse limité. Donc, toujours les dispositifs d'aide qui auront un rôle majeur. Hein. Rappelez-vous que dans tous ces mouvements de prix qu'on évoque, ils n'ont aucun rôle puisque les 18 centimes, c'était début avril et les 30 centimes à venir, c'est en septembre. Donc, on n'en a pas fini quand même de ce débat sur les carburants chers.
Merci beaucoup, Emmanuel Lechypre. À suivre la météo, puis le journal de Claire Sergent.
En télé, radio et digital. Good morning business. Stéphane Pedrazzi.
Il est 8h à la une de l'actualité. Nancy Pelosi à Taïwan, la présidente américaine de la Chambre des représentants, est arrivée cette nuit à Taipei malgré les messages de mise en garde adressés par la Chine. Pékin a immédiatement réagi et annonce notamment des manœuvres militaires au cours des 4 prochains jours. Un premier chargement de céréales en provenance d'Ukraine est arrivé cette nuit en Turquie. Signal de détente sur le marché des matières premières, on en parlera, même si cette cargaison, en termes de volume, reste anecdotique par rapport aux énormes stocks qui restent pour l'instant coincé en Ukraine. Michel Portier, directeur général d'Agritel, sera mon invité tout à l'heure à 8h15. Et puis la Russie a plombé comme prévu les résultats de Société Générale. La banque annonce une perte de 1,5 milliard d'euros pour le deuxième trimestre. Une consolation, la perte est moins importante que prévu. Soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Et on commence le journal clair avec cette visite qui provoque la colère de Pékin. Nancy Pelosi est arrivée cette nuit à Taïwan.
Ah oui, nous venons en amis à Taïwan, nous venons en paix dans la région, a déclaré la chef de file démocrate à la Chambre des représentants à l'issue d'une rencontre avec la vice-présidente du Parlement taïwanais. Nancy Pelosi qui est arrivée sans encombre sur l'île alors que Pékin s'est montré menaçante. Les États-Unis devront payer le prix de leur atteinte à la souveraineté et à la sécurité de la Chine. Fin de la citation, Sofiane Aklouf. Pékin qui annonce désormais une batterie de sanctions contre Taïwan.
Oui, à commencer tout de suite par l'importation de certains fruits et poissons de l'île qui est désormais suspendue. Alors officiellement, c'est pour des raisons sanitaires, hein, des taux de pesticides excessifs relevés dans les agrumes par les douanes chinoises et des poissons, tenez-vous bien, positifs au Covid. Alors évidemment, le hasard du calendrier interroge. Pékin a déjà placé des entreprises sur liste noire sans attendre, une mesure qui concerne 35 des 107 sociétés taïwanaises inscrites auprès des autorités chinoises. Au total, plus de 3000 produits taïwanais sont déjà visés par ces sanctions. Et les secteurs visés sont en train d'évoluer avec cette visite de Nancy Pelosi. Il ne s'agit plus seulement de l'alimentaire. L'exportation de sable vers l'île vient d'être interrompue. Et c'est important parce que c'est ce qui permet à Taïwan de fabriquer du béton. Et pour ça, l'île est dépendante de la Chine. Ces sanctions ne sont pas limitées dans le temps. Pékin aurait dans ses cartons en plus de nouvelles interdictions. Dans le viseur, le secteur industriel. Tout dépendra évidemment de l'évolution des tensions.
Et bien sûr, on gardera un œil sur l'industrie des semi-conducteurs puisque Taïwan est le premier fabricant mondial de semi-conducteurs. Claire.
La récession n'est pas inéluctable. Les États-Unis et l'Union européenne peuvent y échapper, assure un responsable de la Fed. Un atterrissage en douceur est possible. Ce sera la mission des banques centrales. C'est ce qu'a déclaré le président de la Fed de Saint-Louis. Elles devront correctement changer de politique monétaire en passant d'une politique accommodante pendant la pandémie à une politique plus ferme face à l'inflation, avec comme objectif d'agir sur les anticipations d'inflation pour faire baisser la courbe des prix.
On l'attendait, le navire en provenance d'Ukraine chargé de céréales est arrivé cette nuit à Istanbul.
Il s'appelle le Razoni, il a quitté le port d'Odessa hier matin. Il porte à son bord 26 000 tonnes de maïs, c'est le premier à traverser la mer Noire depuis l'invasion russe. La Turquie qui souhaite qu'un bateau par jour arrive, conformément à l'accord signé avec Kiev et Moscou, mais la route semble encore longue avant d'atteindre une reprise normale du trafic. Charlotte Guerre.
Le ministre ukrainien des infrastructures a prévenu qu'il faudrait des mois avant que les exportations de céréales d'Odessa et des ports voisins n'atteignent les niveaux d'avant-guerre. Actuellement, 20 à 25 millions de tonnes de céréales sont piégées dans le pays. Il faudrait au moins 371 chargements de navires de taille moyenne pour les acheminer. C'est plus du double du trafic du pays au mois d'août de l'année dernière. Ce à quoi s'ajoute aussi une frilosité de la part des armateurs qui craignent que la Russie bombarde l'un de leurs navires. Face à cela, l'inquiétude de ne pas pouvoir soulager une crise alimentaire mondiale. Les Nations Unies parlent d'ailleurs d'un ouragan de famine. Et pour cause, l'Ukraine est un des plus grands exportateurs de blé au Liban, en Somalie, en Libye, en Érythrée ou à Djibouti. Seul point positif, les cours du blé ont repris leur niveau d'avant-crise. Reste à savoir si cela peut durer, si la Russie va oui ou non respecter son accord.
Et concrètement, la baisse des cours du blé est une très bonne nouvelle, notamment pour les 33 000 boulangeries de France.
Et oui, et c'est peut-être une bonne nouvelle aussi pour nos baguettes, hein, parce que leur prix ne fait que grimper depuis le début du conflit en Ukraine, car même si la France produit son propre blé, les cours ont flambé et l'inflation est généralisée. Laura Cambeau.
La baguette tradition est plus chère. Elle est désormais vendue 89 centimes en moyenne. C'est 5 centimes de plus, soit une augmentation de 6% enregistrée la semaine dernière. Pour Dominique Enract, président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, l'envolée des prix reste maîtrisée.
Si il fallait que cette année on répercute toutes les augmentations sur le prix, il y aurait eu des augmentations de 30%. Parce que, en fait, tous les postes ont augmenté. C'est vraiment toutes les matières premières, plus l'énergie, aussi les salaires, et même les emballages. Finalement, c'est une augmentation qui a été tout à fait raisonnable.
Le prix de la baguette est un marqueur de l'inflation étudié avec attention par les consommateurs. Alors, pour éviter que le tarif n'augmente trop, les boulangers rognent sur leurs marges. Dominique Enract craint que ça ne soit plus possible très longtemps.
Là où je suis un peu inquiet, c'est que sur les prochains bilans, si vous voulez, vraiment, on verra qu'on aura au niveau des, ne serait-ce que des matières premières, on va avoir une très très grosse hausse. Et ça se verra à la fin du bilan, en fait, là où les marges vont vraiment réduire.
La Confédération demande des aides au gouvernement, notamment pour que les boulangers puissent changer leur four. Aujourd'hui, beaucoup, notamment en province, fonctionnent toujours au fioul et au gaz.
Dans l'actualité entreprise, Veolia annonce aujourd'hui la signature d'un traité de fusion pour l'absorption de Vigie SA, c'est l'ex-Suez.
Ah oui, la réalisation définitive de la fusion est prévue le 31 octobre de cette année, hein, explique le groupe dans un communiqué. Veolia, qui vient aussi de publier ses résultats et affiche un EBITDA en forte croissance de plus de 40% sur un an. L'EBITDA qui approche les 3 millions d'euros au premier semestre. L'endettement, lui, s'est creusé en lien avec la fusion avec Suez.
Je vous le disais en titre, Société Générale a dévoilé ce matin une perte de 1,5 milliard d'euros pour le deuxième trimestre de son exercice.
Et la banque qui fait mieux qu'attendu, puisque les analystes prévoyaient 2 milliards d'euros de pertes. Les revenus de ces activités dans la banque de détail et sur les marchés permettent de limiter l'impact de la vente de sa filiale russe, Rosbank. Son produit net bancaire progresse de 13% sur un an à plus de 7 millions au deuxième trimestre. Et puis, les résultats aussi d'AXA, l'assureur dépasse les attentes. Son bénéfice net progresse de près de 3% sur un an à plus de 4 milliards d'euros. Le groupe résiste malgré un contexte incertain. AXA estime les pertes liées au conflit en Ukraine à 300 millions d'euros.
Le secteur du luxe est en excellente forme. On en parle souvent quand il s'agit des groupes français. Mais c'est vrai aussi pour l'automobile et donc pour les Italiens.
Ah oui, Ferrari qui a publié hier des résultats solides, qui profite à son premier actionnaire, les Agnelli. La famille italienne enchaîne les bonnes performances grâce à ses parts dans Stellantis et la vente de son assureur partenaire, Mathieu Pechberti.
Les Agnelli récoltent les fruits de leur virage stratégique entamé il y a 3 ans, à commencer par Fiat. Le fleuron historique de la famille italienne était distancé dans l'électrique et peu rentable. La famille a accepté de vendre Fiat Chrysler à Peugeot pour créer Stellantis et les résultats sont là. Le groupe enchaîne les hausses de marge et accélère fortement dans l'électrique. Les Agnelli se retrouvent premier actionnaire d'un géant mondial qui pèse près de 50 milliards d'euros en bourse. Une stratégie financière que l'héritier John Elkann avait déjà appliquée à Ferrari en l'introduisant en bourse dès 2016. Il détient encore 25% du constructeur de voitures de sport dont le cours de bourse a doublé. Sa société familiale Exor a aussi signé la semaine passée la vente de son réassureur partenaire au français Covéa. Elle récupère un généreux chèque de 8 milliards d'euros qui seront réinvestis dans les secteurs d'avenir, la santé, les technologies et surtout le luxe. Les Agnelli viennent de rentrer au capital de Louboutin et visent celui d'Armani. Preuve de sa détermination, John Elkann a fait rentrer à son conseil d'administration le gérant d'Hermès, Axel Dumas, pour l'épauler.
Et prochain journal, ce sera tout à l'heure à 8h30. Merci beaucoup, Claire. Les marchés financiers, Aude Kersulek. L'ouverture à la Bourse de Paris, ce sera dans moins d'une heure. Aude, on se dirige vers une ouverture en légère baisse, mais évidemment, on va surveiller ce qui se passe à Taïwan. En cas d'escalade, ça pourrait inquiéter les investisseurs.
Oui, une ouverture qui est prévue autour de moins 0,2 sur le CAC 40 qui devrait s'afficher tout juste à 6401 points. Alors, cela dit, on ne fait pas grand-chose hein, depuis hier. À chaque fois, on clôture un petit peu comme on ouvre. Alors, évidemment, les marchés restent suspendus à la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. C'est la crainte du moment. On regarde ce qui se passe, mais d'un côté, du côté de l'Asie, des marchés asiatiques, ce matin, on reprend un peu de vigueur. On reprend quelques dixièmes perdu les deux journées d'avant, donc on n'a pas non plus de grosses baisses, de grosses inquiétudes. Après une baisse modeste à Wall Street hier soir, hein, où on a reparlé de récession, notamment quand Caterpillar a dévoilé ses résultats et a dévoilé que du côté de la Chine, on vendait beaucoup moins de machines parce que les chantiers étaient en baisse. L'action a dévissé hein, de quasiment 6%. C'était le contraire pour Uber qui prenait 18% après avoir annoncé au marché enfin qu'il générait une trésorerie disponible positive. Et ça, c'est la première fois de son histoire. Alors, on a d'autres résultats ce matin. Évidemment, on suivra la réaction des investisseurs à la publication de Société Générale qui publie certes une perte, mais c'était attendu, mais qui publie aussi un coût du risque qui baisse pour ce deuxième trimestre. Et puis, les publications aussi d'AXA ou de Veolia. Et puis, on regardera dans la journée, au cours de la journée, cette réunion du cartel de l'OPEP qui devrait décider de maintenir la production conforme au calendrier qui avait été décidé, une légère hausse prévue dans la production de barils de pétrole. Ce matin, les cours de l'or noir s'affichent à 100 dollars. Et puis dans le cours de la journée, on suivra aussi les indicateurs avancés, notamment les indicateurs de services, les PMI services et PMI composites. Alors en Allemagne, il devrait être en léger recul. En France, on devrait préserver la croissance. Ils suivront aussi ce soir aux États-Unis. C'est ce qui pourrait rythmer la journée, parce que les journées boursières en août, ça peut quand même être très calme.
Merci beaucoup, Aude Kersulec. On vous retrouve à 9h pour le coup d'envoi de la séance à la Bourse de Paris. Juste après la pause, on va évidemment parler de cette cargaison de céréales en provenance d'Ukraine. Les cours ont nettement baissé. Sur le blé, on a retrouvé les niveaux d'avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Quelle perspective pour la suite? Est-ce que les conditions climatiques, par ailleurs, vont perturber le marché des céréales à la rentrée? On en parle avec Michel Portier, directeur général d'Agritel, juste après la pause. A tout de suite.
BFM Business, Good Morning Business, l'interview.
Un premier chargement de céréales en provenance d'Ukraine est arrivé cette nuit en Turquie. Signal de détente sur le marché des matières premières, même si cette cargaison en termes de volume est anecdotique par rapport aux énormes stocks qui sont encore en Ukraine. On va en parler avec Michel Portier, directeur général d'Agritel. Bonjour.
Bonjour.
C'est un signal positif?
Oui,
évidemment.
Tout à fait. C'est un signal très positif, hein, beaucoup plus psychologique, j'allais dire, que d'un point de vue fondamental, puisque 26 000 tonnes de maïs, ce n'est pas grand-chose au regard des 20-25 millions de tonnes qu'il y a exportées.
Ouais, il faudrait plusieurs centaines de cargaisons de ce type pour pouvoir faire sortir les stocks d'Ukraine.
Tout à fait, et il faut surtout des gros bateaux, ça veut dire qu'il faut que les chargeurs internationaux puissent accéder au port de la mer Noire et au port de l'Ukraine en toute sécurité, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas.
Quel est l'intérêt de la Russie d'avoir permis cette cargaison?
Bah déjà, d'un point de vue politique, on va dire, de ne pas être responsable de la famine ou des crises alimentaires que l'on peut avoir dans le monde. Elle veut montrer qu'elle est présente et que s'il y a des crises au niveau alimentaire dans le monde et flambée des prix, ce n'est pas de sa faute. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut dire que la Russie va connaître une récolte record en blé cette année. À titre d'exemple, l'an passé, ils ont fait 75 millions de tonnes de blé. On travaille quasiment sur 90 millions de tonnes cette année. C'est une récolte record. Elle va avoir besoin aussi d'exporter.
Ça veut dire quoi? La Russie avait peut-être des craintes sur le fait que les Occidentaux bloquent ces exportations?
Tout à fait. La Russie avait des craintes que les gros bateaux, ce qu'on appelle des Panamax, qui chargent 60 000 tonnes, hein, à titre de comparaison, le bateau qui est parti d'Ukraine n'a chargé que 26 000 tonnes, puissent ne pas aller en toute sécurité, y compris sur la Russie.
Quelle est la suite vraisemblable? Est-ce qu'on peut considérer que ça y est, on va pouvoir faire sortir les stocks d'Ukraine, ou est-ce qu'il faut rester très prudent?
Oh, il faut rester extrêmement prudent. Tout d'abord, le volume incriminé, 26 000 tonnes sur 20-25 millions, c'est très peu. Ensuite, même si on considère qu'un bateau par jour pourrait sortir de l'Ukraine, ce sera pas suffisant. Il faut pas oublier que l'Ukraine va récolter, malgré le conflit, du blé cette année, à hauteur de 20 millions de tonnes, on estime en blé, et autour de 27-28 millions de tonnes en maïs. Cela va venir s'additionner aux 20-25 millions de tonnes qu'il y a déjà stockées dans les ports et à l'intérieur du pays. Donc, très clairement, ça va prendre des mois et des mois pour pouvoir retrouver une situation normale.
Ça veut dire quoi? Que le risque de pénurie, le risque de famine dans certaines régions du globe est toujours présent?
Il est présent, il est actuel et malheureusement, il va le rester, notamment parce que les cours devraient rester relativement élevés à cause de la hausse des coûts de production notamment.
Alors les cours restent élevés sur le maïs, même si on est quand même redescendu des niveaux élevés qu'on avait encore il y a quelques semaines. Sur le blé, les cours sont revenus au niveau de début mars, c'est-à-dire juste après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Comment on explique cette réaction?
Vous savez, il y a un facteur géopolitique extrêmement important sur les marchés. On peut dire aussi qu'il y a un peu de spéculation, c'est très clair. Il y a un an, sur la base d'un blé coté sur Euronext, on était à 200 euros la tonne. On est monté fin février au pic de la crise et au début de la guerre à plus de 400 euros tonne. Là, on est redescendu à 300-320 euros tonne. Donc effectivement, on a fait ce qu'on appelle un retracement, c'est-à-dire qu'on a rebaissé. Mais clairement, nous ne pensons pas que ce retracement aille beaucoup plus loin parce que la demande à l'international reste extrêmement importante.
Vous parliez de spéculation, c'est un mot qu'on a beaucoup entendu dans la bouche des distributeurs. Est-ce que ce sont les spéculateurs, entre guillemets, qui sont responsables de la situation actuelle?
La réponse est non. La spéculation ne fait qu'un.
On ne va pas le nommer, mais c'est Michel de Dorleclerc qui avait dit ça dernièrement, mais d'autres ont suivi derrière ces déclarations.
J'ai envie de dire une déclaration très simpliste, entre guillemets. Je ne conçois que la spéculation accélère les mouvements, mais elle ne fait que suivre une tendance de fond, un trend. C'est-à-dire que si le blé est passé de 200 à plus de 400 euros tonnes avec de la spéculation à la clé, peut-être que sans la spéculation, nous serions montés autour de 400 euros tonnes, peut-être pas autour de 420, mais très clairement, on y va plus vite. J'ai envie de dire, la spéculation accélère un mouvement fondamental.
Mais la hausse était de toute façon...
La hausse était inscrite, elle était inscrite d'ailleurs depuis plusieurs années. Hein. On a déjà décelé une tendance à la hausse de l'ensemble des matières premières agricoles depuis plusieurs années.
D'autant qu'il y a d'autres facteurs. On entre dans la troisième canicule de l'été en France. On le voit bien, les conditions climatiques ne sont pas forcément très, très favorables. Ça va avoir un impact sur la production de céréales en provenance de l'Union européenne ?
Ça va avoir un impact sur le maïs essentiellement. Le blé est récolté ou en phase finale de récolte au niveau européen. La récolte est inférieure au niveau européen en blé à celle de l'an passé, mais pas dramatiquement inférieure. Pour donner un exemple, chez Agritel, on travaille avec une production de blé française à 33,3 millions de tonnes contre 35,3 l'an passé. Donc certes, 2 millions de tonnes de moins, mais ce n'est pas une catastrophe, entre guillemets. Par contre, l'impact de la sécheresse, du déficit hydrique, va être extrêmement important sur le maïs, puisque le maïs est en phase de floraison, a besoin de beaucoup d'eau à l'heure actuelle, et malheureusement, le climat n'a pas l'air d'annoncer de la pluie sur les prochains jours.
Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour le long terme, le réchauffement.
Le réchauffement climatique induit de la volatilité sur les marchés. Et très clairement, ça a un impact très clair. Depuis plusieurs années, on a vu des impacts sur l'Australie. On a vu l'an passé un impact très fort sur le Canada, qui avait connu une sécheresse historique. Là, on a un impact sur le continent européen. J'ai bien peur qu'il faille qu'on s'habitue un petit peu à ces impacts.
L'autre problème auquel sont confrontés les agriculteurs, ce sont les engrais. Produit essentiellement en Europe de l'Est, on n'est pas capable de produire des engrais en France.
On est capable de produire des engrais en France, mais pour produire de l'engrais, je vais parler essentiellement de l'azote, hein, qui est l'engrais le plus utilisé, le plus impactant sur le rendement. Pour produire de l'azote, il faut du gaz. Or, qui dit gaz, dit effectivement gaz russe, notamment, ou autre origine, mais la flambée des cours du gaz a entraîné une flambée des cours de l'azote. Pour vous donner une petite idée, ce qu'on appelle de l'azote liquide, de la solution azotée. Il y a deux ans, on achetait ça à moins de 200 euros tonnes. Aujourd'hui, c'est à plus de 600 euros tonnes.
Donc, un impact sur les coûts de production ?
Les coûts de production, très clairement, il y a deux ans, on estimait le coût de production pour un agriculteur autour de 180 euros tonnes. Aujourd'hui, on a doublé quasiment, on est autour de 160 euros tonnes.
Est-ce qu'on va manquer d'engrais ou est-ce qu'on a des stocks suffisants pour la saison prochaine ?
Bonne question. On a un petit peu de crainte sur des problèmes de livraison en engrais azotés, un petit peu moins en potasse et en phosphore. Le marché est en train de se réguler. Il faut qu'on trouve des alternatives pour le moment.
Un mot aussi, vous parliez de l'Ukraine qui récolte. Le problème, c'est que l'Ukraine n'a pas beaucoup semé en raison de la guerre, notamment dans les oblasts, dans l'est du pays. Ça veut dire que avec un décalage, on va avoir un énorme problème d'approvisionnement en blé la saison prochaine.
Il n'est pas impossible que sur 2023 qu'on ait un problème de décalage. La seule solution pour l'Ukraine, c'est que le conflit s'arrête. Or, apparemment, il ne va pas s'arrêter dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Et j'ai presque envie de dire que nous craignons pour l'Ukraine surtout une problématique pour la récolte 2023. C'est-à-dire qu'ils ont pu semer quand même, on va dire, en 2021, à l'automne 2021. Oui. La problématique, ça va être les semis automne 2022, dans les oblasts notamment, avec une autre problématique, hein, le blé dans les oblasts, il appartient à qui ?
Ouais, évidemment. On va parler de pouvoir d'achat, puisque les céréales, on l'avait presque oublié, mais il y en a dans énormément de produits alimentaires. D'ailleurs, c'est pas un hasard si les pâtes, par exemple, font partie des produits dont les prix ont le plus progressé.
Alors, pour les pâtes, c'est du blé dur, hein, c'est pas du blé tendre, donc l'impact...
Mais le marché
pâtes,
mondial
c'est essentiellement le Canada. On va dire l'impact le plus fort qu'il y a eu sur la hausse des prix des pâtes est lié à la sécheresse au Canada l'an passé. À l'heure actuelle, d'ailleurs, nous sommes en crop tour, nous avons une équipe qui est en train de se déplacer cette semaine sur le Canada pour voir l'état des cultures. L'état des cultures, à l'heure actuelle, paraît à peu près correct sur le Canada. Donc, peut-être que nous avons vu les plus hauts sur les pâtes.
Alors, vous avez raison de le souligner. Le blé tendre, lui, dont on parlait au début, dans quoi est-ce qu'on l'utilise?
On l'utilise pour la farine, pour le pain. On l'utilise dans la midonnerie. On l'utilise dans l'alimentation du bétail. Donc, il y a pas mal d'utilisation, entre guillemets, dans une certaine pâtisserie, pâtisseries, etc.
Et ça veut dire concrètement qu'avec le retracement dont on parlait sur les cours, on peut s'attendre à une baisse de ces produits dans les magasins dans les prochains mois, ou est-ce que vous êtes prudent ?
Je suis sceptique. Suis sceptique, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas répercuté toute la hausse des prix au niveau de la grande distribution, à tel point que je ne pense pas qu'il y ait un gros potentiel de baisse.
Merci beaucoup Michel Portier, directeur général d'Agritel. On le rappelle donc, cette cargaison en provenance d'Ukraine qui est arrivée cette nuit en Turquie, une cargaison de maïs. Et évidemment, c'est un dossier qu'on va continuer de suivre. Il est 8h23. Il est 8h30, on fait un nouveau point sur l'actualité avec Claire Sergent. Résultat de Société Générale, Claire. La banque est passée dans le rouge, comme on s'y attendait.
Oui, la banque affiche une perte nette d'1,5 milliard au deuxième trimestre. Alors c'est moins que prévu, la banque fait mieux que prévu parce que les analystes prévoyaient 2 milliards d'euros de pertes parce que les comptes de la Société Générale sont plombés par la vente de sa filiale russe Rosbank. Mais son produit net bancaire progresse de 13% sur un an à plus de 7 millions au deuxième trimestre. Il est tiré vers le haut par le dynamisme de toutes les activités de la Société Générale. La banque de détail en France, le PNB, progresse de 8,5% sur un an. À l'international, c'est plus de 16%. Et puis, dernier tiers de son activité, la banque de financement et d'investissement qui progresse de plus de 18%.
D'autres résultats ont été publiés ce matin.
Oui, les résultats également d'AXA, l'assureur qui dépasse les attentes. Son bénéfice net progresse de près de 3% sur un an à plus de 4 milliards d'euros. Le groupe résiste malgré un contexte incertain. AXA qui estime les pertes liées au conflit en Ukraine à 300 millions d'euros. Veolia affiche un EBITDA en forte croissance de plus de 40% sur un an. L'EBITDA qui approche les 3 millions d'euros au premier semestre. Mais son bénéfice net recule en raison essentiellement des frais d'acquisition de son ancien rival Suez et d'une dépréciation des activités en Russie. Veolia, qui vient de signer un contrat de fusion absorptio avec Vigiesa, l'ex-Suez.
On attend également les résultats de Maersk ce matin.
Oui, mais le groupe de transport maritime a d'ores et déjà annoncé qu'il relevait ses prévisions de bénéfices après avoir dépassé les attentes au deuxième trimestre. Son chiffre d'affaires s'élève à 21,7 milliards de dollars. Maersk qui prévoit pour cette année un EBITDA d'environ 37 milliards de dollars, Jean-Baptiste Huette.
Maersk est sur un petit nuage. Les résultats 2022 s'annoncent comme l'an dernier exceptionnels. Le Danois table sur un EBITDA qui devrait tutoyer cette année les 37 milliards de dollars. La très forte demande des consommateurs ces derniers mois, conjuguée au goulet d'étranglement dans de nombreux ports à travers le monde, en particulier en Chine et aux États-Unis, ont propulsé le coût des conteneurs vers les sommets. Après un pic de 11 000 dollars en moyenne au mois de septembre dernier, les cours naviguent ces jours-ci autour de 6 000 dollars le conteneur, bien au-dessus des 1 500 en moyenne avant la pandémie. La congestion des chaînes d'approvisionnement mondiales entraînant une hausse des taux de fret s'est poursuivie plus longtemps que prévu initialement, explique-t-on chez Maersk. Toutefois, depuis quelques semaines, la plupart des opérateurs observent une vraie détente sur les cours, une détente des prix très progressive. Pas de quoi inquiéter pour le moment le géant danois pour qui le coût du transport de marchandises ne devrait pas diminuer de sitôt en raison d'un ensemble de pressions inflationnistes.
Et on l'apprend à l'instant, les réserves stratégiques de gaz de la France seront remplies à 100% avant le 1er novembre. C'est la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, qui l'indique, la ministre qui est invitée de CNews.
On revient à l'actualité entreprise, cette fois-ci à l'international. Uber aux États-Unis a été salué par les marchés après avoir annoncé une trésorerie positive. C'est la première fois depuis la création de l'entreprise que
ça se produit. Hier soir à Wall Street, les marchés ont donc salué cette nouvelle. Le titre a clôturé en hausse de 19% à 29,25 dollars. Uber a dépassé les attentes des marchés, même s'il affiche toujours de lourdes pertes. Son chiffre d'affaires a plus que doublé au deuxième trimestre et sa rentabilité croît sur toutes ses activités. Valentin Grille.
La hausse des prix de l'énergie n'a pas de prise sur les résultats du champion des VTC. Il a augmenté son nombre de chauffeurs et de livreurs de près de 31% pour atteindre près de 5 millions d'inscrits, alors que les marchés craignaient un ralentissement de l'activité à cause du coût de l'essence. Surtout, Uber a dégagé un flux de trésorerie positif de 382 millions de dollars. C'est une première pour la Californienne qui affirme sa capacité à devenir rentable et à investir. Sur le trimestre, elle continue néanmoins à perdre de l'argent avec un résultat net négatif de 2,6 milliards de dollars. Elle attribue ses mauvaises performances aux résultats décevants de plusieurs entreprises qu'elle soutient, comme le singapourien VTC Grab ou encore le spécialiste de véhicules autonomes Aurora. L'activité transport de personnes a progressé de 120% sur un an et les livraisons de 37%. Des changements dans le mode de calcul des bénéfices au Royaume-Uni sont en cause, mais les chiffres demeurent bien au-delà des prévisions.
Direction l'Espagne pour terminer avec Auchan qui se renforce dans le sud de l'Europe.
Ah oui, le distributeur met la main sur 235 supermarchés appartenant au groupe espagnol Dia. Le montant de l'opération n'a pas encore été divulgué, mais cette acquisition est stratégique. Derrière Auchan a l'ambition de devenir leader sur ce marché. Hélène Cornet.
Auchan repart à l'offensive après l'échec de son rapprochement avec Carrefour. Le distributeur nordiste a jeté son dévolu sur l'Espagne, son deuxième marché après la France. Près de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Il a conclu un accord avec Dia pour récupérer 235 supermarchés et un entrepôt. Une acquisition qui double pratiquement son parc de magasins en Espagne. Son ambition, y devenir un leader du commerce alimentaire en comptant les supermarchés et la vente en ligne. Un vrai pari tant le numéro 1 en Espagne, Mercadona est loin devant ses concurrents. Une opération qui tranche avec la politique en cours ces dernières années. Jusqu'à présent, l'idée était plutôt de se désendetter et de se séparer d'actifs non stratégiques. Auchan est sorti d'Italie et du Vietnam en 2019, de Chine l'an dernier. Le plan Renaissance a permis un retour à la rentabilité et même si le distributeur continue de perdre des parts de marché en France, il retrouve des marges de manœuvre pour d'éventuelles opportunités.
Et puis le Sénat qui vient d'adopter le second volet de mesures en faveur du pouvoir d'achat. Les débats se sont terminés tôt ce matin. Les sénateurs qui ont revu certains pans du texte, ils ont notamment voté pour allouer 20 millions d'euros à la mise en place d'une carte vitale biométrique. Un amendement porté par les Républicains qui sont majoritaires au Sénat. Objectif, lutter contre la fraude qui atteindrait 6 milliards d'euros selon l'estimation la plus basse.
Merci beaucoup Claire, on se retrouve tout à l'heure à 9h, ce sera notamment pour l'ouverture du marché parisien. On va parler justement des marchés. Avec Dorian Abadi, analyste chez Meilleur Taux Placement. Bonjour Dorian.
Bonjour.
Trois publications sur le CAC 40 ce matin, de quoi redonner de l'allant au marché qui s'ennuyait un petit peu ces derniers jours ?
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on reprend ce matin les bonnes habitudes avec la saison de publication des résultats trimestriels. Donc, vous en parliez il y a quelques instants. On a eu les résultats d'AXA, Veolia et Société Générale. Donc, Veolia, en deux mots, s'en sort le mieux hein, avec un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards d'euros au premier semestre, en hausse de 46% sur un an. Et surtout, on retiendra la perte de Société Générale, sa première perte nette trimestrielle depuis deux ans suite à son retrait de Russie. Alors, c'était une perte attendue, mais tout de même d'1,5 milliard d'euros. Donc, suite à la cession de Rosbank et de filiales de Société Générale en Russie. Voilà. Et puis, sur le calendrier un peu plus macroéconomique, donc aujourd'hui, on a une batterie d'indicateurs, ce que l'on appelle les PMI services, qui fourniront donc un bilan de santé du secteur des services au niveau mondial. Et les chiffres français, allemands et de la zone euro seront publiés aux alentours de 10h. Voilà. Donc pour ce matin, pas de grand changement attendu hein, finalement au niveau des places boursières et un CAC 40 selon les contrats futurs, ce qui devrait évoluer dans les premiers échanges autour des 6400 points.
Dorian, est-ce que néanmoins il faut rester vigilant à ce qui se passe par rapport à ce qui se passe à Taïwan ? Le risque d'escalade, j'imagine, est quelque chose que le marché surveille attentivement ?
Totalement, en particulier depuis hier, évidemment, avec l'arrivée de Nancy Pelosi donc à Taïwan. Alors aujourd'hui, donc elle commence à s'afficher un peu plus officiellement, ben justement avec les officiels de l'île. Donc ça a provoqué un peu de tension, ça a surtout incité les investisseurs à la prudence. Concrètement, on a eu des petites prises de bénéfices lundi, mais surtout accentuées hier après-midi. On va continuer de surveiller ça aujourd'hui. En théorie, elle est censée quitter l'île aujourd'hui, mais c'est vrai que ce dossier géopolitique fait planer une certaine menace hein, autour de la stabilité des indices boursiers à court terme.
Avec une inquiétude, j'imagine, pour les semi-conducteurs. On est déjà dans une situation tendue. Taïwan, c'est le premier producteur mondial de semi-conducteurs.
Tout à fait, avec donc TSMC. C'est le grand sujet hein, qui attise toutes les convoitises à la fois des Chinois et des Américains sur l'île. Donc là aussi, il va falloir bien sûr surveiller l'évolution du titre de TSMC dans le courant de la journée.
Merci beaucoup Dorian Abadi, analyste chez Meilleur Taux Placement. Il est 8h39, une question à présent. Peut-on mettre fin au contrat d'un salarié pendant sa période d'essai? Est-ce qu'il y a des règles? On dit souvent que le contrat peut être rompu sans trop d'explications pendant la période d'essai. Est-ce qu'il y a des recours pour un salarié qui s'estime lésé? Écoutez les conseils de Lorraine Goumeau.
Good morning business, BFM Business avec vous.
C'est un témoignage et une question ce matin d'un de nos auditeurs qui nous écrit « Mon employeur a mis fin à ma période d'essai sans explication sur le parvis de l'entreprise. Je n'ai pas pu dire au revoir à mes équipes, pas pu monter au bureau et j'ai rendu mon badge et je suis partie. » Notre auditeur est un peu secoué par les méthodes. Il nous demande est-ce qu'il y a un recours possible et si la situation est légale. Alors il faut lui répondre que oui, hein, il est tout à fait possible de mettre fin à tout moment à une période d'essai de manière unilatérale et sans explication parce que c'est la logique de la période d'essai. Il y a néanmoins une limite à cette situation, ça serait celle de l'abus de droit. Si son employeur avait abusé de ses droits, alors là on pourrait avoir une rupture abusive qui pourrait donner lieu à une compensation sous forme de dommages et intérêts. En fait c'est une action au prud'homme qui pourrait être engagée pour obtenir une compensation effective. Mais la difficulté, elle est assez évidente, vous la comprenez, ça va être de prouver qu'il y a eu abus de droit. Il faudrait pour notre auditeur eh bien, recueillir, par exemple, le témoignage d'autres confrères, d'autres salariés pour alimenter, voilà, pour démontrer le fait qu'il y avait eu abus de droit. Et donc, c'est très, très compliqué.
Tout au long du mois d'août, nouvelle série, on vous parle immobilier avec Marie Cœur de Roy. Et si vous investissiez dans un bien immobilier à l'étranger pour y passer vos vacances, pour le mettre en location ou tout simplement pour devenir propriétaire sur un marché où les tarifs sont plus bas qu'en France? Quelle que soit leur motivation, sachez en tout cas que les Français n'ont jamais eu autant envie d'être propriétaire à l'étranger. Marie Cœur de Roy.
Est-ce une bonne idée de se lancer dans un investissement locatif à l'étranger? L'appétit des Français semble en tout cas bien réel selon une récente étude de l'entreprise Mastéos. 20% des personnes interrogées disent envisager d'acheter d'ici 5 ans un bien immobilier dans le reste de l'Europe. Et même si la moitié d'entre eux rêvent d'une résidence secondaire, près d'un quart veut faire un investissement, autrement dit acheter un bien pour le mettre à la location. Les destinations privilégiées des Français, l'Espagne en tête, suivie par le Portugal puis l'Italie. Et c'est vrai que dans ces pays, les grandes villes sont bien plus abordables qu'en France. Barcelone, par exemple, est à moins de 4000 euros du mètre carré. On est même à peine au-dessus des 3000 euros pour Rome. Résultat, les rendements y sont aussi particulièrement attractifs. Plus de 4,5% de rendement à Barcelone et même au-delà des 5% de rendement pour Rome. Mais attention, avant de vous lancer, il y a évidemment des particularités et des difficultés propres à chaque pays. Mais surtout, surtout, un vrai sujet sur l'apport personnel que vont vous réclamer les banques au moment où elles vous accordent votre crédit immobilier. Prenons l'exemple d'un achat immobilier à 300 000 euros. En France, on vous demandera en moyenne moins de 40 000 euros d'apport, soit environ 13% du prix du bien. Au Portugal, on monte à 84 000 euros, soit 28% du prix du bien. On grimpe encore en Espagne à 99 000 euros d'apport et même près de 110 000 euros en Italie, toujours pour un bien à 300 000 euros.
C'est tout de même moins cher qu'en France. Juste après la pause, on vous emmènera faire un barbecue digital avec Frédéric Simotel et Anthony Morel. Et puis le débat aujourd'hui sera consacré au resserrement des politiques monétaires. C'est pour lutter contre l'inflation, mais ça complique évidemment l'équation pour les entreprises et pour les États qui sont lourdement endettés. À tout de suite.